C'est en tout cas, à terme, en tout cas pour la partie énergie, l'éloignement d'un centre de décision, même si General Electric, semble-t-il, a pris des engagements assez importants en la matière pour localiser en France des centres de décision, par exemple dans l'hydroélectricité ou des choses comme ça. Malgré tout, la stratégie de l'industrie française en matière d'équipement énergétique, c'est-à-dire les turbines, les équipements pour les barrages hydroélectriques, etc., va s'éloigner inévitablement à terme du territoire français. Donc c'est un effet qui ne sera pas immédiat, qui sera compensé par les engagements de GE, qui sont réels et sérieux, je pense. Mais c'est non pas une perte de savoir-faire, parce que là encore, une partie des activités vont rester en France, mais un éloignement à terme des centres de décision. Voilà, donc ce n'est pas forcément une bonne chose pour la France en tant que telle. L'effet direct à court terme risque d'être minime. C'est à moyen et long terme que ça peut jouer un rôle sur la place de la France sur la scène industrielle mondiale, et notamment sur ce domaine clé qui est les équipements pour la production d'électricité.
Est-ce que c'est la preuve ou le révélateur que l'État français n'a plus les moyens de mener une véritable politique industrielle comme il semble en tout cas vouloir le faire ?
Alors, il y a beaucoup d'ambiguïté autour de ce terme de politique industrielle. On l'emploie un peu à tort et à travers en France, dans l'esprit de beaucoup, de certains, notamment d'Arnaud Mondon, mais pas seulement. Ces gens-là ont à l'esprit, en tout cas, la politique industrielle telle qu'elle pouvait être menée du temps du général de Gaulle ou de Pompidou, c'est-à-dire où l'État a été un levier extrêmement important du développement de l'économie nationale, mais c'était une toute autre époque, c'était celle de la reconstruction ou du développement de l'Europe et de la France. On sortait de la guerre, donc tout était à faire. Il y a la nostalgie en France, dans cette et pas seulement, dans d'autres pays aussi, de cette période. Aujourd'hui, l'économie ne fonctionne plus comme ça. Les gouvernements et l'Europe l'acceptent, prennent ce fait pour acquis, enfin, en tout cas, se meuvent dans cet univers plus globalisé, où les capitaux et les entreprises circulent. Mais, encore une fois, la politique industrielle, c'est un terme qui porte beaucoup d'ambiguïté. Aujourd'hui, la politique industrielle telle qu'on peut l'entendre dans ce sens-là, elle est réalisée où ? Elle est réalisée dans les pays émergents. En Chine, par exemple, la Chine a une véritable politique industrielle, c'est-à-dire que le gouvernement, dans le cadre de la planification, de sa vision à très long terme, bien décide d'orienter tel ou tel secteur d'activité dans telle ou telle direction, décide du nombre d'entreprises qu'il doit y avoir dans un secteur, des mariages éventuels. Clairement, le monde occidental, l'Europe, la France ne fonctionnent plus comme ça. Les actionnaires, les entreprises sont respectées, se meuvent dans un système plus ouvert. Donc la politique industrielle, dans ce sens-là, encore une fois, elle est du ressort, elle est menée dans un certain nombre de pays émergents ou dirigistes comme la Russie. Mais plus tellement, on voit en Europe, ni en France, ni même aux États-Unis.
Autrement dit, parler d'une possible ou éventuelle politique industrielle au niveau européen et menée par l'Union européenne semble tout aussi incorrect.
Il y a des réflexions en ce sens. C'est pas juste un chiffon rouge ou un étendard qu'on déploie. La politique industrielle, au sens strict, dans les traités européens, notamment le traité de Lisbonne, c'est ce qu'on appelle une compétence de coordination. C'est-à-dire qu'elle est du ressort, en fait, des 28 États membres aujourd'hui. Donc les États membres doivent se coordonner, mais comme d'ailleurs en matière de production d'énergie, chacun reste maître chez soi. Ça ne veut pas dire que l'Europe n'agit pas, elle ne peut pas agir. Elle peut agir sur différents leviers. Elle le fait d'ailleurs. Elle le fait par exemple dans le domaine de la recherche. Un des piliers du budget de l'Union européenne et de l'action de l'Europe, c'est ce qu'on appelait autrefois les programmes communs de recherche et développement qui s'appellent aujourd'hui Horizon 2020, qui a été adopté l'an dernier dans le cadre du budget global pour 7 ans. Donc c'est quand même 90 milliards d'euros sur 7 ans, là, encore une fois, qui doivent être partagés entre des centres de recherche, des universités, des grands groupes, des PME, sur des thématiques qui ont été identifiées, sur le transport propre, sur l'aviation propre, sur les énergies renouvelables, sur la santé. Donc c'est un véritable outil, c'est avec des moyens. Mais il ne s'agit pas là encore de diriger les entreprises, mais leur donner des moyens de se développer, et notamment en matière de recherche, pour essayer de capter des métiers d'avenir, des métiers nouveaux.